Le travail invisible et ses injustices. Elle est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, et elle était l'une des conférencières à l'AFEAS de Laval le dimanche 2 avril à l'occasion de la journée du travail invisible qui, elle, a eu lieu le 5 avril dernier. Elle s'appelle Evelyne Couturier. Bonjour, Evelyne.
Bonjour.
Je fais exprès de faire une petite césure entre Evelyne parce que ça s'écrit bien en deux mots, hein?
Exactement.
Bon, alors d'abord, Evelyne, qu'est-ce que l'AFEAS, s'il vous plaît?
L'AFEAS, c'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, et c'est un organisme de défense des droits des femmes et pour le progrès social qui a été fondé en 1966. Donc, c'est un groupe qui célèbre ses 50 ans, qui célébrait en fait ses 50 ans l'an dernier. Mm-hmm. Et depuis leur fondation, cette association féminine et féministe travaille pour faire avancer la reconnaissance du travail invisible des femmes et aussi le travail invisible, en fait, de toutes les personnes qui font ce travail un peu dans l'ombre, mais qui est nécessaire pour que la société puisse continuer à exister.
Exactement, parce que sans compter que ce ne sont pas seulement des mamans juste à la maison, mais il y a aussi, on parle aussi beaucoup des personnes qui accompagnent des gens qui sont en difficulté aussi.
Exactement, donc des proches aidants, mais comme l'a souligné Hélène Cornelier, qui était également panéliste pendant la conférence que j'ai donnée à Laval, l'idée que les personnes soient proches est un peu nécessaire lorsqu'on aide les gens. Donc, elle défendait l'utilisation du mot aidant, parce que il n'y a rien de naturel là-dedans, et la proximité, elle est de facto quand on aide les gens. Donc, ces aidants-là qui passent une partie de leur vie à aider, que ce soit leurs enfants, les enfants de leur famille, oui, leurs sœurs, leurs frères ou leurs parents qui sont vieillissants ou qui vivent avec des handicaps qui peuvent être parfois lourds, eh bien, ça fait aussi partie du travail invisible qu'on reconnaît.
Alors, vous, votre conférence portait précisément là-dessus, sur le travail invisible?
Je parlais, entre autres, de comment la société était déstructurée avec l'austérité. Il y avait aussi la question de la fiscalité du travail invisible que le fait de laisser son emploi ou de diminuer ses heures de travail pour aider une personne qui en a besoin, a des conséquences, en fait, sur son rapport d'impôt à la fin de l'année. Des conséquences qui peuvent être assez lourdes, mais qui sont aussi lourdes dans le temps. Donc, les décisions qu'on prend maintenant vont avoir un effet encore plus élevé dans 10 ans, dans 15 ans, et particulièrement quand on va prendre notre retraite.
Et est-ce qu'on prévoit des changements du côté des gouvernements pour améliorer cette situation? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des oreilles compatissantes et surtout qui comprennent les enjeux?
Eh bien, il y a une certaine tendance à voir qu'il y a une plus grande reconnaissance du travail des aidants dans la fiscalité, dans des programmes gouvernementaux, mais certaines personnes un peu cyniques se disent que c'est beaucoup plus pour éviter l'institutionnalisation, donc éviter des coûts élevés dans le système de santé, plutôt que d'aider véritablement les personnes qui prennent la charge d'aider leurs proches. Cependant, on voit quand même certains changements. On voit, par exemple, au fédéral, il y a eu une certaine simplification dans les crédits d'impôt. Avant, il y avait plusieurs programmes de crédits d'impôt, alors c'est un peu difficile de savoir si on qualifie et tout. Alors, on a fusionné 3 crédits d'impôt pour rendre ça plus simple. On a également, et ça c'est une excellente nouvelle, j'imagine que plusieurs personnes savent, ou peut-être plusieurs ne le savent pas, mais avec l'assurance-emploi, on peut avoir un congé de compassion pour aider un proche qui vit des difficultés de santé, mais jusqu'à tout récemment, c'était seulement si la mort était prévisible dans les 6 prochains mois, qui est extrêmement contraignant, un peu dérangeant dans la conception des gens qui accompagnent les personnes qui ont des difficultés et des handicaps. Maintenant, il y a un congé pour les personnes qui sont gravement malades et ce congé est de 15 semaines. Donc, on n'est plus obligé d'attendre la mort d'un proche pour pouvoir prendre une pause de son emploi et aller l'aider. Du côté du provincial, du côté du Québec, il y a une révision des normes du travail qui a lieu en ce moment. On attend les résultats dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et là, on espère pouvoir voir aussi certains accommodements. Donc, on ne s'attend pas à avoir de l'argent supplémentaire, mais quand même de protéger l'emploi pendant une durée plus longue pour que les personnes qui s'absentent de l'emploi pour des raisons familiales, pour des raisons d'aider les gens qui leur sont proches, puissent conserver le lien d'emploi et quand même revenir après avoir passé un temps étendu à l'extérieur du travail. Et également, voir si ce serait possible le fractionnement des jours familiaux matériau, parce que les aidants, oui, on peut penser aux cas qui sont plus lourds, mais on peut penser aussi au fait que les femmes, les hommes, mais surtout les femmes, se retrouvent à être la personne de référence, que ce soit pour leurs parents vieillissants, pour leurs enfants ou pour la famille qui a des besoins. Donc, partir un après-midi en catastrophe pour aller à l'hôpital ou pour prendre soin de quelqu'un, bien sûr, on perd une journée totale de travail pour ça. Ça complique les choses. Donc, on espère dans les normes du travail voir de tels changements.
Est-ce que ça existe ailleurs sur la Terre?
Oui, bien sûr. Et il existe aussi dans plusieurs autres pays, notamment en Belgique ou en France, des congés qui sont possibles de prendre, d'accumuler des congés pour pouvoir les prendre en bloc à quelques reprises dans notre vie, des crédits temps, par exemple, pour pouvoir prendre du temps à l'extérieur du travail tout en gardant un lien non seulement d'emploi, mais de rémunération aussi. Donc, ce genre de choses-là est intéressant. Bien entendu, le problème avec tous ces projets-là, c'est que ça prend toujours en considération un travail qui est temporaire.
Oui.
Et le travail d'aidant peut être beaucoup plus long que seulement quelques semaines ou quelques mois. On voit plutôt quelques années, souvent. Donc, on n'a pas encore trouvé de moyen, que ce soit juridique ou social, de pouvoir vraiment reconnaître ce travail-là. Et je parlais de la retraite un peu plus tôt. Eh bien, lorsqu'on décide de diminuer son temps de travail ou de sortir complètement du travail rémunéré pour prendre soin de quelqu'un, eh bien, on n'a plus de cotisation sociale. Donc, on n'a plus droit rapidement aux prestations de chômage, à l'assurance parentale, où on voit l'argent qu'on accumule à la retraite ne pas s'accumuler. Et il y a aussi la question des crédits d'impôt qu'on voit présentement, que ce soit au fédéral ou au provincial, qui prennent en considération des revenus qui sont très faibles. Donc, rapidement, on coupe en disant la personne que vous aidez ou vous-même, vous êtes assez riche pour pas qu'on ait besoin de vous soutenir, alors que les besoins financiers ne diminuent pas parce que on a plus d'argent dans nos poches.
Écoutez, Evelyne Couturier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, donc à l'IRIS, et que vous étiez aussi une des conférencières à la FEAS au sujet de ce travail invisible et de ces injustices. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonne fin de journée.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.